Le titre du sermon aujourd'hui, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Si je vous demandais ce matin de vous rendre à l'extérieur de la salle, en plein air, et de compter le maximum d'étoiles que vous pourriez observer dans le ciel, selon vous, combien d'étoiles pourriez-vous dénombrer? Nous savons que les étoiles sont là. Mais en plein jour, probablement, me diriez-vous qu'il est impossible de les voir, tout au moins à l'œil nu. En fait, on peut penser qu'en plein jour, on ne voit aucune étoile à l'œil nu. Ce qui est vrai si on fait abstraction du soleil, qui est l'étoile la plus proche de nous. Quand est-ce que nous pourrions compter le plus grand nombre d'étoiles et apercevoir leur scintillement? Naturellement, c'est à la nuit tombée, en pleine noirceur, comme au début du septième mois, lorsqu'on a fait la fête des trompettes. Le premier jour du septième mois, aucune lune, donc beaucoup d'étoiles. À ce moment-là, lorsque le ciel est dégagé et qu'il n'a pas de lune en réalité, c'est là que nous pourrions dénombrer un nombre impressionnant d'étoiles, sans contredit, au-delà de ce que nous pourrions compter. Vous savez, la lumière brille davantage au sein des ténèbres. Et on va voir ça dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Nous allons nous reporter dans le livre des Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 4. Nous allons débuter au verset 6. Car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Comprenez bien, le même Dieu, le même Jésus-Christ, qui a dit un jour que la lumière brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu le Père, qui rayonne maintenant du visage de Jésus-Christ. Le Christ qui vit sa vie en nous fait resplendir la connaissance du vrai Dieu. D'ailleurs, dans les évangiles, à combien de reprises le Christ est venu parler de son Père. Mais ce trésor que nous portons dans les vases d'argile que nous sommes, ce trésor, c'est la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non pas notre propre capacité, comme on vient de le lire. Comme le disait l'apôtre Paul, « Je puis tout » par Jésus-Christ, qui vit sa vie en moi. Vous savez, c'est le fameux verset préféré de M. Meredith. Il nous l'a répété. Et je pense qu'avec le temps, on commence de plus en plus à comprendre ce verset et à le vivre. C'est surtout ça, le vivre. Comme M. Meredith le vivait, ce verset-là. Il le comprenait avec une profondeur que nous avons à nous-mêmes approfondir. D'un autre côté, nous vivons actuellement dans un monde qui se dirige de plus en plus vers les ténèbres. Et c'est à ce moment-là que notre lumière doit briller devant les hommes, pour que notre Père au ciel soit glorifié. Rendons-nous ensemble à Matthieu au chapitre 5. Matthieu au chapitre 5. Nous allons lire les versets 14 à 16, Matthieu 5, verset 14. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, Naturellement, lorsqu'on voit une ville au loin, si elle est sur le dessus d'une montagne, on peut la voir. Et encore davantage le soir, lorsque les lumières sont allumées, on peut la voir de très loin. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Le boisseau, c'était un vase qui servait à contenir des matières sèches comme l'avoine et le blé. D'ailleurs, ça l'a servi longtemps comme de mesure pour mesurer le blé, l'avoine et les céréales. Et en passant, un boisseau, c'est 8 gallons. Et un boisseau canadien, c'est 8 gallons canadiens. Un boisseau américain, parce que la mesure est différente, c'est 8 gallons américains. Et je crois que pour un boisseau métrique, c'est différent. Si je me souviens bien, dans ce que j'avais regardé, c'est 10 litres. Alors, c'est différent. Nous, je continue. Mais on ne met pas le chandelier et elle éclaire tous ceux. On le met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est intéressant aussi de voir que nous sommes, nous, dans la maison de Dieu et que Dieu nous donne le Saint-Esprit pour nous éclairer. Verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » c'est drôle, ça me résonne un peu comme la sermonnette qu'on vient d'entendre. Nous qui sommes parvenus au temps de la fin, qu'est-ce que c'est être la lumière des hommes? Pourquoi cela revêt une importance plus que jamais? Alors, comme on vient de le voir, on n'allume pas une lumière pour la cacher, mais pour qu'elle soit vue et qu'elle éclaire. Être une lumière, c'est être un exemple. Un exemple pour notre conjoint, nos enfants, nos amis, nos voisins et même les étrangers que nous côtoyons au hasard de la vie. Et hier, en regardant le DVD du film « Derrière l'œuvre », on a vu des exemples vivants. Ils vont être des exemples aussi pour leur entourage lorsqu'ils reviennent des camps. Ils ont été même un exemple vraiment émouvant pour nous. Hier, je regardais le DVD et je voyais la candeur de ces enfants-là. Je me souviens encore, puis ça m'a frappé ce témoignage-là. Il y en a beaucoup que c'était vraiment poignant. Mais lorsqu'on demandait à une jeune fille, qu'est-ce qu'elle aimerait? Elle dit, j'aimerais rencontrer Jésus-Christ, puis lui demander candidement, comment ça va? Wow! J'aurais jamais pensé. Mais, voyez-vous, les enfants, c'est ça. Et Dieu nous demande aussi d'être comme des petits-enfants, d'être des exemples, comme ces jeunes au camp. Vous avez eu un excellent témoignage, je suis persuadé qu'on va avoir la chance de réentendre ce DVD et ça vient nous chercher. Et vous savez, nous ne percevons pas toujours l'impact de notre exemple, mais il est là. Il peut être positif, mais parfois malheureusement négatif. Vous savez, vous êtes ici à la fête de Dieu et notre comportement doit refléter la famille de Dieu. N'oubliez jamais que vous êtes membre de l'Église de Dieu et membre de la famille de Dieu. 24-7-52. 24-7-52. Retenez ces chiffres-là. 24 heures par jour, 7 jours par semaine et 52 semaines par année. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, cela fait partie de notre responsabilité à partir du moment où Dieu nous a appelés et qu'on a répondu à son appel. Ça fait partie de notre responsabilité. Et vous savez, Dieu nous donne actuellement une opportunité que très peu de gens ont dans ce monde. Très peu. Je crois qu'on est environ une dizaine de mille, comme M. Brochet avait dit, je crois, sur la face de la planète, où il y a plus de 7 milliards d'habitants. Alors, chérissez cette opportunité. Comprenez l'ampleur de cette opportunité. Parce que ce n'est pas donné à tous actuellement. Chacun va avoir son moment pour connaître la vérité. mais on sait que la première résurrection a quelque chose de meilleur. Maintenant, regardons 2 Corinthiens 5 et le verset 20. Nous allons nous tourner vers 2 Corinthiens 5 et le verset 20. C'est un verset que vous connaissez, qu'on lit, mais qu'on ne comprend peut-être pas suffisamment le temps d'y réfléchir. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. On n'est pas un ambassadeur du monde, on est un ambassadeur de Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et nous avons été réconciliés avec Dieu au moment où nous avons été baptisés, que nos péchés ont été pardonnés. Alors, nous sommes tous des ambassadeurs de Christ, la lumière qui brille justement au sein des ténèbres. Maintenant, comprenez-vous ce qu'est un ambassadeur? En tant qu'ambassadeur, vous vivez dans une contrée étrangère et vous représentez votre propre contrée ou votre pays. Vous devez être l'exemple de votre pays, de votre façon de vivre et de la façon que les gens de votre pays, normalement, se comportent. Prenons l'exemple physique, si on veut, que le premier ministre vous nomme comme ambassadeur du Canada en Chine. Remarquez, j'aurais pu choisir un pays moins connu, comme la Macédoine, un pays où Paul a œuvré, mais j'ai choisi la Chine. Ainsi, toutes les choses que vous faites, les paroles que vous dites et les actions ou décisions que vous prenez seront regardées et scrutées à la loupe, de près, premièrement par les médias chinois, les Chinois que vous allez rencontrer, ainsi que le gouvernement chinois. Ainsi, vous devez comprendre leurs coutumes pour ne pas heurter leurs sentiments et leur culture. Mais en même temps, vous devez représenter la culture du Canada en tant qu'être physique. Ainsi, vous devez avoir un bon comportement pour que le Canada ne soit pas qualifié de mauvais. Vous devez être une lumière pour le Canada. Mais devinez quoi? Vous êtes tous des ambassadeurs de la famille de Dieu, de l'Église du Dieu vivant. Nous sommes une nation royale. Et c'est très important de comprendre cela et que nous sommes en service 24/7/52. 24/7/52, vous représentez l'Église de Dieu, le peuple de Dieu et le gouvernement de Dieu. Ce n'est pas anodin, le gouvernement de Dieu. Ce n'est pas anodin. C'est ce qui va constituer le point de départ d'une nouvelle civilisation lorsque le Christ va revenir sur la terre. Dans votre église locale, vous voyez votre pasteur local comme un représentant de l'église, n'est-ce pas? Il est, en quelque sorte, le leader, ambassadeur pour votre région. Quelles sont vos attentes face à cela, face à votre ministre? Vous seriez désappointé s'il rentrait à la maison pour fumer et prendre la bière ou du vin et se mettre ivre. Le ministère ne doit pas être un objet de scandale en quoi que ce soit. Vous pourrez aller voir 2 Corinthiens 6, verset 3. Je vais juste vous citer le verset, on ne va pas s'y reporter. Le ministère ne doit pas être un objet de scandale en quoi que ce soit. Vous seriez très désappointé si vous trouviez d'autres points négatifs concernant votre ministre s'il faisait, pour ainsi dire, le mal en secret. Mais nous, est-ce qu'on peut faire le mal en secret devant Dieu? Vous le savez, la réponse. En tant que pasteur, les ministres font très attention pour que leur conduite représente l'Église de Dieu 24/7/52. Vous également, vous représentez l'Église de Dieu 24/7/52. Je pense que vous allez retenir ces chiffres-là. Vous pouvez dire ou penser que c'est un fardeau horrible, mais il y a une très bonne raison pour laquelle Dieu vous a appelé. Dieu vous a appelé parce qu'il y a une position très importante pour vous dans son royaume, ainsi qu'une responsabilité et une tâche pour vous maintenant, aujourd'hui. Vous êtes dans cette salle, vous êtes chacun de vous un représentant de Dieu. Et comprenez que Dieu a des attentes, une expectative pour chacun de nous. Souvenez-vous de la parabole des talents ou des mines, où Christ s'attend que les serviteurs qui ont reçu puissent produire des fruits, être un bon exemple. Que vous aimiez ou pas, que vous le vouliez ou pas, vous êtes des ambassadeurs de Christ lorsque vous avez accepté dans le contrat du baptême, dans le sang de Christ, lorsque vous avez accepté de devenir chrétien. Vous savez, un ambassadeur doit connaître le protocole. C'est quoi un protocole? Je vais vous donner la définition ici selon Wikipédia, donc vous pourrez facilement la retrouver. On nomme protocole les conventions qui facilitent une communication sans faire directement partie du sujet de la communication elle-même. En diplomatie, le protocole désigne l'ensemble des règles relatives aux usages recommandés, la bienséance, la civilité et les relations internationales. Le protocole diplomatique établit aussi des règles qui définissent le processus des visites d'État, mais aussi des codes vestimentaires. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose aussi pour l'Église qui s'attend ou qui émet ou des directives, non pas précises de « do and don't » ou de ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire, mais on connaît qu'il doit y avoir des codes vestimentaires. Il continue dans la description jusqu'à la disposition des sièges lors des rencontres et discussions. On le voit lorsqu'ils font des photos officielles. Bon, il y en a un qui se déplace puis s'en va là parce que là, il faut qu'il soit à côté de celui-là, puis c'est compliqué un peu, mais c'est ça. En diplomatie, les processus intergouvernementaux sont soumis à des règles différentes qui servent à éviter les conflits et à créer une atmosphère propice aux négociations politiques. Écoutez bien la dernière partie que je vous cite, plus d'un incident diplomatique a été la raison d'une confrontation militaire. Fin de citation. Donc, des fois, des mauvaises relations diplomatiques peuvent mener à la guerre. Ça nous fait penser, des fois, lorsqu'on a des mauvaises relations dans l'Église entre nous, ça ne dégénère pas littéralement en guerre physique, mais ça peut dégénérer en des mini-guerres, si on veut. Le protocole ou l'étiquette n'est pas une fin en soi. C'est un moyen par lequel les gens de toute culture peuvent échanger les uns avec les autres. Le protocole leur permet de se concentrer sur leur contribution à la société, et ce, que ce soit dans le domaine professionnel et même personnel. Le protocole est le cadre pour l'image plutôt que le contenu du protocole. Le protocole est le comportement approprié à adopter. Vous savez, nous vivons dans le 21e siècle maintenant, dans une atmosphère qu'on dit « relaxe ». Et dans notre société relaxe, ou devrais-je dire complaisante, les règles de bienséance de notre société, qui étaient une routine d'une génération passée, sont aujourd'hui largement ignorées. D'ailleurs, la majorité de ceux nés après les années 2000, et même, je dirais, après les années 70-80, les gens ne connaissent pas ou n'ont pas connu ces règles de bienséance qu'on enseignait à l'école. Et oui, il fut un temps où on enseignait la bienséance à l'école et, bien sûr, à la maison. Notre société s'est décalée dans le temps vers la gauche de façon drastique. Nous sommes passés de l'extrême droite à l'extrême gauche, mauvaise, et cela en seulement quelques années, quelques décennies à peine. Vous ne réalisez peut-être pas cela, surtout peut-être pour les plus jeunes. Nous avons besoin dans l'Église de Dieu d'avoir de plus hauts standards chrétiens. Il y a une moralité biblique selon Dieu. Pas la moralité du monde, mais la moralité selon la Bible, selon les standards de Dieu. Notre laxisme ou tolérance excessive est souvent interprétée comme de la rudesse ou de l'impolitesse dans d'autres sociétés. Notre comportement vis-à-vis d'autres sociétés peut être pris comme une insulte personnelle même ou nationale. En tant que membre de l'Église du Dieu vivant, quand notre comportement n'est pas correct, c'est une insulte à l'Église de Dieu. C'est une insulte au corps de Christ, à la famille de Dieu. Il y a rarement une situation entièrement privée où le comportement de quelqu'un n'est pas observé, tout comme un ambassadeur qui est sous la loupe dans le pays où il exerce ses fonctions. Il ne peut pas penser parce qu'il va au restaurant seul ou avec quelques amis dans un pays qu'il n'y a pas des gens qui ne vont pas le remarquer. C'est la même chose pour nous. Allons maintenant à 1 Pierre, chapitre 2. Nous allons lire les versets 9 et 10. 'Vous, au contraire, ici Pierre s'adressait aux chrétiens, et ça s'applique à nous. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. On va voir en détail un petit peu qu'est-ce que c'est tout ce que Pierre ici énumère. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. De ténèbres que nous étions souvent dans le passé avant que Dieu nous appelle, nous devons devenir des exemples, des lumières. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et je suis à peu près persuadé que je ne connaîtrais aucun d'entre vous si Dieu ne m'avait pas appelé dans son Église. Il n'y a pas personne de ma famille directe, si on veut, ici. Donc, nous sommes un peuple que Dieu a formé. Et qui maintenant est le peuple de Dieu. On n'est pas n'importe quel peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. On vient de lire au verset 9 que nous étions une race élue, une génération choisie pour un but spécial, un sacerdoce royal, des enseignants, dans la famille divine, de la famille divine. Une nation sainte, être saint, devenir saint comme Dieu est saint, mais en même temps, une nation sainte qui a été sanctifiée, qui a été mise à part. Vous êtes mis à part par Dieu. Un peuple acquis au prix du sang de notre Créateur, à qui Dieu nous fait miséricorde. Allons-nous prendre cette responsabilité au sérieux. Allons-nous prendre cette responsabilité de race élue, sacerdoce royal, nation sainte, acquis au sérieux. Allons-nous prendre la décision, par exemple, de rester dans l'Église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité, comme c'est mentionné dans 1 Timothée 3:15. L'Église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. Et de rester parce que Dieu nous conduit dans la vérité et qu'il n'y a pas d'autre vérité que la parole de Dieu et que la vérité de Dieu nous affranchit de l'esclavage, de la très lourde servitude du péché. Vous savez, la poigne de Dieu est solide, elle est forte. Mais il y a des gens qui quittent l'Église de Dieu. Et quand les gens quittent l'Église, c'est parce qu'ils se retirent. Dieu pourrait nous retenir, mais il ne le fait jamais contre notre volonté. Il va nous envoyer des épreuves pour nous tester, mais il ne nous retiendra pas à tout prix. Ce n'est pas Dieu qui nous relâche si on quitte l'Église. C'est nous qui se retirons et s'éloignons de Dieu, en s'éloignant parfois tranquillement de la vérité, en s'éloignant de la lumière. Ne vous éloignez pas de Dieu et de son Église parce que votre potentiel futur est extraordinaire. On en a entendu parler depuis le début de la fête. Nous avons un potentiel extraordinaire. Ne vous retirez pas, vous êtes une génération choisie. Vous êtes la royauté à venir sous peu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu quelque chose de somptueux qui s'est passé il y a quelques mois en Angleterre. C'est le mariage royal du prince Harry et de Meghan Markle. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Meghan Markle à Windsor Castle, en Angleterre. Le prince Harry, en passant, est un descendant direct du roi David. Savez-vous ce que Mme Meghan Markle doit faire ou devait faire suivant les 6 mois de son mariage? Elle recevait un entraînement sur ce qui est approprié, sur ce qui ne l'est pas également. Une éducation royale, 6 mois d'entraînement protocolaire. 6 mois d'entraînement protocolaire. Pour être dans la royauté, vous devez savoir ce que vous faites. Vous devez savoir ce que vous faites. Je dois savoir ce que je fais, ce que Dieu veut que je fasse. C'est pourquoi nous recevons, nous aussi, un entraînement, je dirais, protocolaire, parce que nous serons de futurs rois. Dieu nous prépare pour le représenter, lui, face au reste du monde, en tant qu'ambassadeur, en tant que membre de sa famille royale. Vous êtes en entraînement jusqu'au retour de Jésus-Christ. Jusqu'au retour de Jésus-Christ. L'entraînement ne s'est pas arrêté quand M. Armstrong est mort. Il doit continuer pour chacun de nous. Un ambassadeur exerce ses fonctions dans un pays de résidence temporaire qui peut être attrayant, paisible et où les gens sont chaleureux, comme ici à la fête des tabernacles. Et très certainement, l'ambassadeur peut avoir son opinion sur des événements dans le pays où il sert. Mais en aucun temps, il ne s'implique dans la politique du pays. Il est là pour promouvoir les valeurs de son gouvernement, de son pays. Nous, nous sommes actuellement ici sur Terre, peu importe le pays, pour promouvoir les valeurs de Dieu, les valeurs du gouvernement de Dieu que nous représentons, et sans jamais nous impliquer dans la politique de notre pays de résidence temporaire. Ne l'oubliez pas, que vous aimiez le Canada, que vous aimiez la Belgique, que vous aimiez peu importe le pays, c'est un pays de résidence temporaire. Exactement comme ici, nos lieux, nos chambres à la fête, nos logements sont des habitations temporaires. Alors Dieu s'attend que nous soyons convenables, corrects, comme il faut, que nous soyons la lumière des hommes et que nous vivions selon ses valeurs pour en faire la promotion. Alors, quelle est notre attitude face à cela? Est-ce que notre attitude est de servir Dieu ou de se servir soi-même? C'est la question que nous devons nous poser individuellement. J'aimerais maintenant vous présenter 2 méthodes pour être une lumière, pour avoir un comportement digne d'un futur roi dans le gouvernement de Dieu. Je me suis limité à 2, mais je pense que ce sont 2 points majeurs. Il y en a d'autres que vous pourriez trouver. Le premier point, c'est ceci. Ce que vous faites vous représente. N'oubliez jamais cela. Ce que vous faites vous représente. En rapport avec ce point-là, nous allons nous reporter à 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13. Et nous allons commencer la lecture au verset 4. 1 Corinthiens 13 et au verset 4. Ici, l'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens, leur donnait des conseils, dans le fond, leur donnait la façon de se comporter. Il dit, « L'amour est patient, il est plein de bonté. » On a entendu un sermon au début de la fête sur la bonté de Dieu. Ça doit devenir aussi notre standard, la bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Lorsqu'on a lu au début du sermon que nous sommes des vases d'argile et ce que nous pouvons faire, dans le fond, on n'a pas à s'enorgueillir de tout ça. Ça vient de Dieu. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne cherche point son intérêt aux dépens des autres, il faut comprendre. Des fois, il faut prendre à cœur de ce qu'on a à faire. Mais il ne cherche point son intérêt au détriment des autres. Il ne s'irrite point. Et combien de fois nous nous irritons trop facilement. Et souvent envers les gens qui sont plus près de nous, envers nos enfants, nos conjoints, nos plus proches. Lorsqu'on travaille des fois envers quelqu'un qui a dit quelque chose, qui a fait quelque chose qui nous a déplu, on s'irrite. Il ne soupçonne point le mal. Vous voyez quelqu'un qui a eu un accident, ou vous regardez une nouvelle, et vous dites, ah, il était probablement en boisson. On vient de soupçonner quelque chose qui est peut-être totalement faux. Au lieu de dire, c'est dommage, il est blessé, il va avoir besoin de soins, ou, ah, c'est une personne que je connais, je vais prier pour elle. Voyez-vous la différence? Dieu s'attend qu'on ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Tout ça, il faut le faire sans se mêler aussi de politique, ou sans... Vous comprenez, à être impliqué dans les affaires du monde. Il excuse tout. Il croit tout. Vous rencontrez quelqu'un, alors il vous conte un événement. Si c'est un menteur invétéré, c'est possible que vous ne croyez pas. Mais pour la majorité des gens, vous devez croire ce que les gens vous racontent. Ils espèrent tout, ils supportent tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Dans le fond, les prophéties vont finir par se réaliser. C'est dans ce sens-là qu'elles seront abolies. Les langues cesseront. On n'aura qu'une seule langue un jour. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis de côté ce qui était de l'enfant. La seule chose qu'il ne faut pas mettre de côté de l'enfant, c'est son cœur. Avoir son cœur d'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. On voit à travers une vitre obscure un peu, d'une manière obscure justement. Mais alors, nous verrons face à face. Nous verrons face à face le Christ. On pourrait lui demander, nous aussi, comment ça va. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, la fidélité. On doit demeurer fidèle en tout temps. Et on va demeurer fidèle à Dieu pour l'éternité. Ça va demeurer. L'espérance, on va toujours avoir un Père, puis on va pouvoir toujours compter sur lui. L'amour, avec un grand A. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Si ce n'était de l'amour, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Si ce n'était de l'amour de Dieu, vous et moi ne serions pas ici, dans cette salle. Sommes-nous à même d'exprimer ce genre d'amour en toutes circonstances, tous ces versets qu'on vient de lire ensemble? En y repensant des fois au cours de la journée, au cours de votre vie, pensez à ces versets. Cette description que nous venons de lire est aussi à l'image du sermon sur la montagne et de la loi de Dieu qui dit d'aimer son prochain comme soi-même. C'est une autre façon de le partager, de l'écrire, mais ça se résume à aimer aussi son prochain comme soi-même. Comprenez-vous quand je dis ce que vous faites vous représente? Et non seulement ce que vous faites vous représente, mais ce que vous faites, et je m'inclus dans le « vous », cela représente également 24-7-52 l'Église de Dieu, les membres de la famille de Dieu, la voix de Dieu, le gouvernement de Dieu et Dieu lui-même. Vous êtes son ambassadeur dans votre ville de résidence temporaire. Moi, je demeure à Chicoutimi. C'est un lieu temporaire. Mais je dois être un exemple, je dois être un ambassadeur de Christ dans cette ville-là. Lisons dans l'Évangile de Matthieu la fin du sermon sur la montagne. Allons à Matthieu, chapitre 7. Et au verset 21. Matthieu 7, 21. « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Si vous dites, Seigneur, Seigneur, et que vous faites sa volonté, vous allez entrer dans son royaume. Mais si vous ne faites que dire, Seigneur, Seigneur, mais que vous ne faites pas sa volonté, c'est très clair, vous ne serez pas dans le royaume de Dieu. Verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, ça ne peut pas être plus clair. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Et elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Elle est fondée sur le roc, vous êtes fondés sur le roc quand vous suivez les enseignements de Christ. Pas juste les entendre, mais quand vous les pratiquez, vous les mettez en pratique, vous êtes fondés sur le roc. Verset 26, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Lorsque les épreuves vont venir, si nous n'avons pas pratiqué aujourd'hui les paroles de Christ, nous allons tomber. Et la ruine sera grande. N'oubliez jamais que c'est par l'autorité du Père que le Christ est venu nous enseigner la voie de l'amour qui consiste à garder ses commandements, comme Christ lui-même l'a fait, nous donnant à tous un exemple à suivre. Ce que le Christ faisait représentait son Père et notre Père. Christ fut le plus fidèle ambassadeur du royaume de Dieu. Il était la lumière des hommes, et en cela, nous devons l'imiter. Ce que nous faisons représente ce que nous sommes, soit en bien ou soit en mal, selon nos agissements. Je voudrais maintenant passer à mon deuxième point, qui est ceci, très simple. Ce que vous dites, vous représente. Ce que vous dites, vous représente. Et allons maintenant à Proverbe, chapitre 10. Nous allons lire les versets 19 à 21. Proverbe 10, versets 19 à 21. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Combien de fois ai-je trop parlé vite? Combien de fois? Je parle de moi. 20. La langue du juste est un argent de choix. Mais pour que la langue du juste soit un argent de choix, il faut qu'il sache choisir ses paroles, qu'il prenne le temps de répondre. Le cœur des méchants est peu de choses. Verset 21. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Et les insensés meurent par défaut de raison. Avez-vous remarqué qu'on vient de lire que les lèvres du juste sont appelées à diriger beaucoup d'hommes? Réalisez-vous cette promesse de Dieu, si nous apprenons à maîtriser notre langue, nous serons appelés à diriger beaucoup d'hommes dans le monde à venir. Ce monde futur représenté par cette fête des tabernacles que nous observons aujourd'hui et pour toujours. Nous allons observer cette fête des tabernacles pour toujours. Vous savez, comme l'a écrit l'apôtre Jacques, la langue est un petit membre qui se vante de grandes choses et elle peut embraser des conflits incroyables. C'est comme je vous le disais quand je lisais au début, plus d'un incident diplomatique a été l'étincelle d'une confrontation militaire. Parfois, il serait judicieux que l'on se mette du duct tape sur la bouche. Du duct tape, là, c'est le fameux tape, le gros tape gris très collant, là, 50 mm ou 2 pouces de large. On aurait parfois avantage, tout au moins figurativement, à l'utiliser. Allons à Jacques, chapitre 3. Jacques, chapitre 3. Nous allons lire les versets 10 et 11. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. C'est très clair comme instruction. Il ne faut pas qu'il sorte de la même bouche la bénédiction et la malédiction. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Si vous allez à quelque part, qu'il y a une source qui jaillit avec de l'eau, ça va être soit qu'elle est amère ou soit qu'elle est bonne, qu'elle est douce. Vous n'aurez pas pendant 2 minutes de l'eau amère puis pendant 2 autres minutes de l'eau douce. Alors pour nous, ça doit être de l'eau douce qui sort de notre bouche. Allons un petit peu plus loin dans Jacques 5 et au verset 12. Jacques 5 et au verset 12. « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Ici, l'apôtre Jacques reprenait l'enseignement du Christ qui se retrouve dans Matthieu 5, versets 34 à 37. Vous pourrez aller le consulter en refaisant une étude biblique. Donc, Matthieu 5, 34 à 37. Il nous faut faire attention aux paroles prononcées à la légère, parce qu'elles blessent comme un glaive tranchant. Comme le conseille Salomon dans le proverbe que nous avons lu, parlons moins, mais surtout parlons convenablement. Très important. Souvenez-vous de ceux qui ont connu peut-être M. Appartient, il disait, ça, je m'en souviens. J'ai de la misère peut-être à l'appliquer, par exemple. Je suis esclave des paroles que j'ai prononcées, mais je suis maître de celles que je n'ai pas dites. Je vais vous le répéter. Beaucoup, je vois les anciens qui sourient. Ils se souviennent de ça. Je suis esclave des paroles que j'ai prononcées, mais je suis maître de celles que je n'ai pas dites. Ecclésiaste 3:7 va un peu dans le même sens. Il nous rappelle qu'il y a un temps pour parler, mais il y a aussi un temps pour se taire. Le temps pour se taire devrait servir à écouter. Vous savez, si vous êtes 6 personnes autour d'une table pendant une heure, parlez-vous 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes ou 20 minutes, sans laisser le temps aux autres de parler ou d'écouter les autres? Pensez-y. Nous avons tous du progrès à faire dans ce domaine-là. C'est un conseil très judicieux. Souvenez-vous finalement que ce que vous dites représente ce que vous êtes. Soit en bien ou soit en mal, selon notre façon de nous exprimer. Je suis déjà rendu à ma conclusion, mais j'aimerais que vous repreniez en note le verset de 1 Timothée 3, verset 12, que M. Arsenault nous a donné dans la sermonnette. Parce que ça résume les deux points que je viens de vous donner. Que nous devons être des modèles en parole et en conduite. Ça résume bien mes deux points. Vous devez être des modèles en parole et en conduite. Ce que vous dites et ce que vous faites doit représenter le gouvernement de Dieu. Ainsi, vous serez une lumière qui luit dans les ténèbres de notre société décadente. Prodiguons des marques de gratitude et d'encouragement dans ce que nous disons et faisons. Ces marques resteront gravées dans le cœur de Dieu et elles deviendront des trésors longtemps après que nous-mêmes nous les aurons oubliées. Vous savez, Dieu a un petit livre, là, à quelque part, ça nous est mentionné dans l'Écriture. Et il aime, je suis persuadé, à noter nos bons coups. J'espère qu'on va faire en sorte qu'il y ait de moins de choses à nous reprocher. Et je vais vous laisser ici sur une pensée de Dale Carnegie. Je ne passerai ici qu'une seule fois. Tout le bien que je puis faire, toute l'aide que je puis apporter à qui que ce soit, c'est maintenant, sans attendre, ni négligent, car je ne repasserai pas ici. Je vais la répéter, car elle est très importante. Et nous savons qu'une seule vie, nous n'avons qu'une seule vie pour être une lumière et un ambassadeur de Christ. Je ne passerai ici qu'une seule fois. Tout le bien que je puis faire, toute l'aide que je puis apporter à qui que ce soit, c'est maintenant, sans attendre, ni négligence, car je ne repasserai pas ici. Frères et sœurs, n'oubliez jamais que vous êtes la lumière du monde et que la lumière a des avantages sur les ténèbres. N'oubliez jamais que vous êtes des ambassadeurs de Christ, 24:7-52. N'oubliez jamais que vous êtes le peuple de Dieu, que vous êtes les membres de l'Église de Dieu, que Dieu vous a mis à part. N'oubliez jamais que vous serez des dieux, 24:7-52, et ce, pour l'éternité.